14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Françoise craignait pour sa vie et il me semble même qu'elle ait dit à ses proches que si un jour il lui arrivait quelque chose et qu'on attente à sa vie, c'est du côté de son mari qu'il faudrait chercher.
Bonjour. Quand la mafia calabraise vient régler un compte au fin fond de la campagne française, pas l'exécution d'un rival qui aurait trahi l'organisation ou manqué au code d'honneur, mais celle d'une mère de famille qui a eu le malheur de divorcer d'un mari dentiste, lequel n'a aucune envie de cette séparation coûteuse. Quoi de plus simple donc que d'éliminer l'ex-épouse en embauchant pour cela des professionnels. Ce scénario, celui d'un crime artisanal et familial, prêterait presque à sourire s'il ne cachait la mort brutale de Françoise Roualde, une femme de 42 ans, mère de deux garçons qui vont se retrouver orphelins en quelques secondes. C'est cette histoire où le cynisme côtoie l'absurde et le tragique que je vais vous raconter aujourd'hui. Comment le respecté dentiste Bernard Roualde a-t-il pu se laisser aller à un plan qu'il pensait machiavélique? Pourquoi a-t-il disparu à son tour de la façon la plus brutale qui soit avant son propre procès? Nous allons passer en revue ces questions avec nos invités et nous écouterons bien sûr leurs réponses.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, la mort de Françoise Roualde à l'automne 91 dans une rue tranquille de Clermont-Ferrand. Cette femme va s'écrouler sous les balles alors qu'elle poussait la porte de son domicile. Ce mardi 26 novembre 1991, vers 7h15 du matin, Françoise Roualde rentre chez elle d'un pas rapide au numéro 17 de la rue des Récollets, à Clermont-Ferrand. Comme chaque jour, à la même heure, cette mère de famille est sortie pour promener son chien, puis est passée par la boulangerie. Il est très précisément 7h28 quand son fils aîné, Wilfried, 16 ans, entend le bruit de la clé dans la serrure. Il est alors seul au domicile, son frère Rudolf, 14 ans, est parti quelques minutes plus tôt pour se rendre au lycée, tout comme le nouvel homme qui partage la vie de leur mère, Vincent, parti lui avec sa voiture à son travail. Wilfried perçoit aussitôt une série de claquements, des bruits étouffés en provenance du vestibule du couloir du rez-de-chaussée. Il se précipite dans l'escalier et aperçoit aussitôt sa mère gisant dans une mare de sang. La police est alertée ainsi que le SAMU. Le médecin ne peut rien faire, la victime décède au bout de quelques minutes sans avoir pu prononcer un mot. Les policiers décomptent 6 étuis de cartouches près du corps, dans le couloir et dans une chambre attenante. Un projectile a perforé une porte, un autre est retrouvé à l'extérieur près du local poubelle. L'autopsie de Françoise Roualde, qui avait repris son nom de jeune fille Ferrerol depuis son divorce, montre que celle-ci a été tuée par 4 balles tirées à l'arrière de la tête par une personne qui l'attendait embusquée dans le couloir. Il est établi que l'assassin a pénétré dans la maison par la porte du garage communiquant avec l'appartement. L'inconnu a fait feu sans hésiter. Il est reparti par là où il était venu, ainsi que le montrent quelques traînées de sang sur le carrelage. La PJ de Clermont-Ferrand pense tout de suite au geste d'un professionnel. Selon la balistique, l'arme utilisée est un pistolet automatique de marque Beretta, équipé d'un silencieux. La rue des Récollets n'est pas très passante, excentrée, peu fréquentée à cette heure matinale. Un riverain indique cependant avoir aperçu 3 hommes qui traînaient dans le coin à 6h10, 6h30, puis 6h50. Rudolf Roualde, fils cadet de la victime, assure lui avoir vu 2 hommes, la vingtaine, vêtus de jogging, à quelques pas de chez lui. Qui en voulait à Françoise Roualde, au point de ne lui laisser aucune chance? Un divorce compliqué apparaît dans le paysage. Wilfried, le fils aîné, explique que sa mère avait toutes les difficultés du monde à se faire verser sa pension alimentaire. Son père l'aurait menacé de mort dans des accès de colère. Les 2 sœurs de la victime évoquent elles aussi un divorce chaotique, tout comme le nouveau compagnon. L'ex-mari, Bernard Roualde, 61 ans, paraît toutefois hors de cause. Ce dentiste stomatologue exerce loin de Clermont-Ferrand, à Aoste, en Italie, à pas moins de 5 heures de route. Il se présente d'ailleurs dès le lendemain au commissariat. Il n'est pas éploré et ne fait aucun mystère de l'animosité qu'il vouait à Françoise, une femme instable, dépensière et qui avait des amants, dit-il. Il reconnaît qu'il lui était redevable d'une pension alimentaire de 8000 francs et d'une prestation compensatoire de 550 000 francs. Mais il n'a pas tué, il était à son cabinet quand Françoise a été abattue. L'ex-mari en colère reste dans la ligne de mire du SRPJ, mais force est de constater qu'ils n'ont aucun indice, aucun témoignage susceptible de l'accabler, jusqu'à ce qu'un coup de fil change la donne. Le 11 juillet 92, le SRPJ de Clermont-Ferrand est contacté par le commandement des carabiniers d'Aoste, en Italie. C'est la ville où exerce le dentiste Bernard Roald, au numéro 41 de la rue Porta Pretoria. Les carabiniers expliquent avoir récemment interpellé un certain Salvatore Caruso, 36 ans, dans une affaire de trafic de stupéfiants et d'extorsion de fonds. Il est fortement soupçonné d'appartenir à la 'Ndrangheta, la mafia calabraise. Lors d'un interrogatoire, il a fait des confidences sur plusieurs affaires. Caruso a été très bavard. Il a ainsi évoqué un règlement de compte à Clermont-Ferrand, celui de Françoise Roald. 4 jours plus tard, le maréchal des carabiniers d'Aoste, Luigi Di Bella, et le carabinier Bruno Todaro sont à Clermont-Ferrand pour communiquer les déclarations du repenti. Celles-ci sont à prendre avec des pincettes, mais elles sont précises, argumentées. Le mafioso raconte avoir été contacté par un certain Giuseppe D'Agostino, fiché lui aussi au grand banditisme. Il s'agissait d'exécuter un contrat en France, une femme a tué, pour 110 millions de lire. Caruso aurait alors recruté 3 hommes pour cette mission facile et bien payée. Début novembre, le groupe se serait retrouvé dans un appartement à Aize, près de Monaco. Le repenti Caruso ne s'arrête pas en si bon chemin. Il raconte que l'équipe est partie en train pour Lyon, à la gare. Ils ont été rejoints par l'organisateur D'Agostino, mais également par le commanditaire, le docteur français Bernard Roald. Tout le monde a embarqué dans la Mercedes du dentiste, direction Clermont-Ferrand, ou plutôt Saint-Laure, un village près de Clermont. C'est là que toute la bande a été hébergée chez une veuve qui ne parlait pas un mot d'italien, une amie du dentiste, une certaine Christiane Seguin. Les policiers français tendent l'oreille en entendant ce nom. Après l'assassinat, Christiane Seguin, ancienne institutrice, avait été la seule témoin à présenter la victime sous un aspect négatif. Selon le récit du mafieux italien, c'est Bernard Roald qui a fourni l'arme du crime. Il lui a remis un Beretta 765 avec silencieux dans la maison de Saint-Laure, peu avant que l'équipe passe à l'acte. Le dentiste a regagné Aoste la veille de l'assassinat. Au matin du mardi 26 novembre, c'est Christiane Seguin qui a conduit dans sa voiture les tueurs jusqu'au domicile de la victime. Celle-ci avait attendu tranquillement qu'ils fassent leur travail. Elle les a attendus sur un parking proche des usines Michelin. Salvatore Caruso lui a remis alors le pistolet enveloppé dans un tissu. Christiane Seguin, suivant les indications du dentiste, a remis aux Italiens en échange un paquet enveloppé dans du plastique. Une partie de la somme prévue rassemblée par le dentiste pour faire exécuter le contrat. Un dentiste qui est arrêté en priorité, il va devoir s'expliquer sur ce contrat destiné à tuer une ancienne épouse qu'il avait fini par détester. Mais Bernard Roald aura-t-il le désir de tout dire ? Le 6 août 92, les carabiniers d'Aoste arrêtent le docteur Bernard Roald chez lui ainsi que 5 hommes, tous liés à la 'Ndrangheta, la mafia calabraise. Ils auraient participé à l'assassinat de Françoise Roald. Avant toute extradition ou remise aux autorités françaises, c'est l'Italie qui mène en priorité les interrogatoires. Devant les carabiniers, puis devant le juge des enquêtes préliminaires du tribunal d'Aoste, le dentiste nie toute implication dans le crime. Il change ensuite d'attitude devant le procureur, indiquant qu'il ne conteste pas les déclarations du repenti Salvatore Caruso. Les mafieux interpellés refusent pour la plupart de répondre aux questions qui leur sont posées. Ils gardent un silence obstiné. Seul Giuseppe D'Agostino confirme en grande partie le récit de Caruso. L'ancienne institutrice Christiane Seguin, interrogée elle par le SRPJ de Clermont-Ferrand, livre un récit qui minimise sa responsabilité. Elle consent à déclarer qu'elle n'a sans doute pas tout dit sur l'assassinat. Elle a bien reçu les Italiens chez elle, trois hommes dont l'un s'appelle Santo, emmené par le dentiste. Elle ne comprenait pas un traitement de ce qu'il racontait. Elle les a déposés à Clermont-Ferrand vers 6h30 le mardi 26 novembre. Elle les a retrouvés une heure plus tard. Elle dit ne pas savoir qu'il y avait un revolver dans le paquet qu'ils lui ont remis, un paquet qu'elle a déposé dans son garage et qui a été récupéré par Bernard Roald le soir du crime quand il est revenu d'Aoste. Christiane Seguin affirme n'avoir jamais fait le lien entre les trois hommes et l'assassinat. Elle pensait qu'il s'agissait d'une magouille ou d'un trafic de drogue. Le docteur Roald n'en dira pas davantage. Le 7 mars 93, il est découvert pendu dans la cellule de sa prison italienne de Brissogne. En l'absence donc du principal intéressé et du donneur d'ordre présumé, Bernard Roald, Christiane Seguin va se retrouver seule à devoir affronter les juges et les jurés de la cour d'assises. Mardi 26 mai 98, Christiane Seguin, 66 ans, se fait toute petite dans le box des accusés de la cour d'assises du Puy-de-Dôme, à Riom. Cheveux blancs, impeccablement coiffés, l'ancienne institutrice est le portrait parfait d'une bonne grand-mère. Elle dit souffrir de diabète et de problèmes cardiaques, elle ajoute aussi qu'elle perd la vue. Elle répond d'une voix calme et posée à propos du docteur Roald, le commanditaire présumé du crime. Elle dit le connaître depuis longtemps, il fréquentait le bar du village qu'elle a longtemps tenu avec son défunt mari. Il lui remettait sans cesse des paquets pour son travail. Elle ne s'est jamais posé de questions sur leur contenu. Christiane, veuve, a accueilli les trois Italiens chez elle à la demande de son ami docteur. Elle n'a jamais fait le rapprochement avec le crime. Pourquoi voulez-vous que j'imagine que ce sont eux qui avaient fait le coup, s'interroge-t-elle. Le mafioso Salvatore Caruso, qui a dévoilé toute l'histoire, accable l'ancienne institutrice. À la question « L'assassinat aurait-il été possible sans l'aide de madame ?», il répond « Non ». Insuffisant pour déstabiliser Christiane Seguin. Je ne suis pour rien dans cette affaire, il faut être coupable pour se repentir. Moi, j'ai la conscience tranquille, affirme l'accusé. L'avocat général ne croit pas à sa pseudo-naïveté. Il explique que la retraitée est en train de servir à la cour un conte pour enfants du Simenon revisité par la comtesse de Ségur. Si vous ne voulez pas me croire, moi, je me crois, réplique Christiane Seguin, qui avait trouvé les tueur calabré gentil et poli, un carabinier italien fait une toute autre présentation des meurtriers, des hommes qui avaient un besoin urgent d'argent et dont le chef n'avait pas moins de 12 assassinats à son actif. Le procès de Christiane Seguin va durer 3 jours. Elle va maintenir jusqu'au bout sa version, faisant tout pour apparaître comme une innocente pièce rapportée dans cette histoire, jusqu'à ce qu'elle commette une petite erreur. Après 3 jours de procès devant la cour d'assises, Christiane Seguin n'a pas varié d'un pouce son système de défense. Elle ignorait tout de cette opération criminelle, même si elle a hébergé sous son toit ceux qui allaient assassiner la mère de famille. « Je ne suis au courant de rien, je n'ai jamais eu de pistolet chez moi », dit-elle. L'accusée, qui jusque-là a tenu bon face à la déferlante des accusations, est une dernière fois questionnée par le président. « Pourquoi, selon vous, Roald a-t-il fait tuer sa femme ?» L'ancienne institutrice, fatiguée, consent pour la première fois à lâcher une petite phrase qui va faire mouche sur le banc de la partie civile. Il devait avoir ses raisons. L'avocat général estime que grâce à Christiane Seguin, les tueurs ont pu rester impunis pendant longtemps. Grâce à elle, ils ont eu une base arrière, ont pu se reposer et ont disposé d'une arme. Christiane Seguin est condamnée à 16 ans de prison pour complicité d'un crime venu d'Italie, mais dont elle répète une dernière fois tout ignorer.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.